Ils occupent un tiers des surfaces de la Terre, absorbent 75% de l'eau douce et pèsent pour un quart des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture et l'élevage, tels qu'ils sont aujourd'hui pratiqués, participent plus que de raison au réchauffement climatique, lequel en retour entraîne une diminution des rendements. Dans ces conditions, comment faire en sorte que les terres agricoles continuent à jouer leur rôle de puits à carbone, tout en conservant leur capacité à nourrir bientôt près de 10 milliards d'êtres humains? Dans son dernier rapport consacré entre autres à la dégradation des sols, à la gestion durable des terres et à la sécurité alimentaire, le GIEC, le groupe des experts internationaux sur le climat, dresse un constat accablant en ouvrant des pistes de réflexion, car tout n'est pas perdu. Si les humains ont dégradé à ce jour un bon quart des terres émergées, ils peuvent encore espérer les réparer en révisant leur mode de production agricole, en diminuant les gaspillages ou en revoyant leur régime alimentaire par exemple, ce qui ne sera pas simple et prendra d'autant plus de temps que les résistances seront sans doute nombreuses, elles le sont déjà, car cette question de l'usage des terres interroge aussi nos conditions de vie, de subsistance, nos modes de consommation et remet en cause de puissants intérêts économiques. Pour en débattre ce soir avec nous, Jean-François Soussana, directeur de recherche et vice-président de l'INRA en charge de la politique internationale. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Olivier Dauger, agriculteur et administrateur de la FNSEA en charge des questions climatiques et énergétiques. Il est avec nous par téléphone. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Dans un instant, nous joindrons Thierry Desvaux, exploitant agricole dans l'Yonne, qui nous parlera de l'agriculture de conservation des sols qu'il pratique depuis de nombreuses années. Alors, comment réconcilier l'agriculture et le climat? C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000 ou par courriel telson@radiofrance.com.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Premier appel ce soir qui nous vient de Saint-Hilaire-du-Harcouët, c'est dans la Manche, et c'est vous, Françoise, bonsoir à vous.
Allô?
Oui, nous vous écoutons.
Allô? J'entends plus rien du tout.
Ah, allô? Vous êtes avec nous, vous êtes en ligne, allez-y.
Bonsoir messieurs, dames.
Bonsoir à vous.
Oui, j'habite Saint-Hilaire-du-Harcouët, c'est une petite commune du sud Manche qui est vouée à l'élevage et à la production laitière, et depuis pas mal de temps déjà, je constate que les vaches ont quasiment disparu du paysage, c'est-à-dire qu'ils restent dans les champs des génisses et des bœufs, mais jamais de vaches laitières. Je suppose que le problème de la traite automatique pose des problèmes, justement, et que donc les bêtes sont maintenues à l'étable tout le temps. Elles ne sortent plus, elles ne vont plus dans les prairies, qui d'ailleurs sont en train de diminuer à toute vitesse, puisqu'elles sont remplacées essentiellement par du maïs. Donc je me demande ce que on boit comme lait. Voilà, en gros.
Merci à vous, Françoise, pour ce témoignage. Bon, Jean-François Soussana, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, là, ce qu'on vient d'entendre.
Alors, si vous voulez, ça permet de mettre un petit peu en contexte ce qui se passe, pas simplement en France, mais dans de nombreuses régions du monde, à savoir, par exemple, le retournement des prairies. Alors, quand on remplace des prairies par des cultures, on va avoir une perte de carbone du sol. Donc, ça va pas dans la bonne direction, puisque ce qu'il faudrait, c'est restocker du carbone dans nos sols, ce qui, d'ailleurs, renforce aussi leur résilience par rapport au changement climatique. Et donc, cela a un certain nombre d'avantages. Alors, il faut comprendre sans doute la logique des éleveurs qui remplacent ces prairies par du maïs. C'est une logique économique, puisqu'ils ont besoin d'une productivité élevée dans les conditions de prix auxquelles ils sont confrontés.
Olivier Dauger, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Les agriculteurs n'ont pas le choix?
Mais c'est une des raisons justement, et le rapport du GIEC montre bien qu'il faut aller vers une agriculture de territoire, il faut aller vers une agriculture sans doute moins mondialisée, mais le problème que l'on subit aujourd'hui et les actions que vous avez pu encore voir aujourd'hui concernant les députés sont un appel, je dirais, du monde de l'élevage et du monde de l'agriculture, parce que on nous impose un certain nombre de contraintes, mais on ouvre les portes à tous les types de production. Et malheureusement, vous parliez tout à l'heure d'intérêts financiers, malheureusement, c'est vrai qu'on peut produire du lait ou de la viande pas chère dans des élevages de plusieurs dizaines de milliers d'animaux, en tout cas beaucoup beaucoup plus facilement qu'on peut le faire en France. Donc ça, c'est un des éléments, je pense, qui est important dans le rapport du GIEC, qui est particulièrement équilibré, c'est de dire qu'il faut revenir à des systèmes agricoles qui soient sensés. La dame disait qu'elle ne voyait plus de vaches dans les prairies. Évidemment, pour des raisons économiques, quelquefois, c'est une des raisons. Maintenant, je peux vous dire que sur le terrain, le retour à l'intérêt du pâturage tournant et de toutes ces techniques que les éleveurs pourraient vous expliquer, montre bien que les éleveurs sont aussi en demande de revenir à ces systèmes. Mais pour ça, il faut que le marché suive derrière, ou en tout cas que les règles du marché respectent ces types de production.
Mais vous êtes d'accord pour convenir qu'il faut évoluer vers des pratiques plus résilientes, qui devront être tout aussi efficaces, mais plus respectueuses de la nature?
Oui. Non, mais le fait de dire que l'agriculture française doit monter en gamme dans sa façon de produire, tout ça, les agriculteurs sont français. On a la chance d'avoir une agriculture en France qui est reconnue dans le monde entier, dans tous les panels, comme une agriculture particulièrement diversifiée et durable, et souvent comme l'agriculture la plus durable du monde. C'est une agriculture qui est particulièrement diversifiée, qui utilise encore beaucoup les territoires et les prairies. Simplement, si on continue à la mettre sur le même pied d'égalité que d'autres formes d'agriculture du monde qui sont beaucoup plus économiques au sens pur du terme, c'est-à-dire financière à court terme, on fragilise cette agriculture. Mais les agriculteurs sont les premiers à demander à garder des tailles d'exploitation familiales, à taille humaine, et pas du tout de partir dans des systèmes d'exploitation qui se développent aujourd'hui dans le monde entier. Les feedlocks au Brésil, c'est 10, 15, 20 000 animaux. En France, la moyenne n'est pas du tout à ça. On est en dessous de 100 vaches laitières ou 100 bovins par exploitation. On n'est pas du tout dans la même agriculture. Et ce rapport, justement, c'est peut-être la chance aussi de faire comprendre aux gens que cette agriculture telle qu'elle est développée en France, il ne faut pas la voir sous l'angle de l'agribashing, au contraire, c'est peut-être l'agriculture de demain à faire évoluer, à renforcer encore, et on en parlera tout à l'heure, le travail sur les sols et ainsi de suite, pour justement la rendre encore plus agriculture de solution par rapport à tous ces enjeux, et de produire des produits en ayant un impact moindre, le moindre possible par rapport aux enjeux du climat, mais aussi de l'environnement, bien sûr.
Alors la première chose à faire, Jean-François Soussana, si on lit bien le rapport du GIEC, c'est de rendre à la forêt une partie des terres d'élevage. Hein, c'est l'une des préconisations. Ça veut dire l'avantage de rendre à la forêt une partie des terres d'élevage, c'est que ça permettra de réduire les émissions de CO2 et en même temps d'augmenter le captage du carbone, c'est ça?
Alors quand nous regardons dans ce rapport les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre qui expliquent qu'on soit à environ un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans ce secteur des terres, hein, qui comprend l'agriculture et la forêt, eh bien il est vrai que l'élevage représente environ la moitié des émissions agricoles, et puis la déforestation ajoute le reste, elle ajoute une grande partie des émissions. Donc, lutter contre la déforestation, c'est quelque chose qui peut aussi se faire par d'autres méthodes. On a aujourd'hui des actions en France pour réduire l'importation de bois qui est issu de la déforestation. Lutter contre la déforestation importée. De ce point de vue, la maîtrise de la consommation est importante. On peut, en jouant sur notre consommation, favoriser des modes de production dans d'autres régions du monde qui soient plus vertueux.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au fait de diminuer les terres cultivables? Parce que reboiser, ça veut dire diminuer les terres cultivables, alors il va falloir nourrir de plus en plus de monde.
Alors effectivement, là on parlait de stopper la déforestation, si vous voulez. Ensuite, pour, disons, 2050, c'est ce que vous indiquiez, il faut se dire que nous allons tendanciellement vers une population de l'ordre de 10 milliards, ce qui est très élevé, et que tendanciellement, aujourd'hui, nous avons dans le monde une augmentation de la demande et de la consommation de produits d'origine animale, particulièrement en Asie et dans les économies en transition. Alors, si l'on allait vers ce scénario, on aurait effectivement une compétition accrue entre la sécurité alimentaire et la conservation des sols, la conservation des forêts, parce que on ne parviendrait pas, surtout avec l'impact du changement climatique, à préserver ces forêts. Si vous voulez, l'agriculture s'étendrait encore plus pour satisfaire la demande alimentaire mondiale.
Donc, c'est un peu la quadrature du cercle.
C'est un peu la quadrature du cercle, effectivement. Et si vous voulez, il faut, travailler dès maintenant sur le renforcement, finalement, le verdissement des terres, qu'il s'agisse de la conservation des forêts, de la régénération des forêts tropicales, préserver les forêts des incendies. Vous savez qu'en ce moment, on a des grands incendies dans les zones boréales, mais il y en a dans d'autres régions du monde. Et puis, finalement, avoir une couverture la plus continue possible des sols, de manière à renforcer leur rôle dans le stockage de carbone. Et en faisant cela, on a des actions qui sont vertueuses, mais qui doivent s'accompagner aussi d'une maîtrise de la consommation alimentaire, en réduisant les pertes et gaspillages, et en évitant d'avoir des consommations qui sont bien au-delà des recommandations nutritionnelles, par exemple de l'Organisation mondiale de la santé, en matière de produits animaux.
On va venir plus précisément sur l'alimentation tout à l'heure. Rappelons que le gaspillage, c'est quoi? C'est 30% de la production. Hein.
25 à 30% au niveau mondial de la production.
On a l'impression que l'agriculture, c'est un peu le problème et la solution, Olivier Daugé. Moins de terres cultivées, ça obligera peut-être à améliorer les rendements. Comment produire plus avec moins? Moins de terres, moins d'eau?
Oui, c'est tout à fait ça. Le produire plus avec moins, c'est le slogan des COP, hein, et c'est logique parce que le GIEC fait partie des COP du climat. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir produire plus, mais on sait que moins, ça veut dire sans doute moins de terre, ça veut dire moins de phyto, ça veut dire moins d'engrais, ça veut dire moins d'eau, ou en tout cas qui tombe d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va devoir trouver des systèmes qui sont beaucoup plus résilients, beaucoup plus efficients. M. Soussana en parlait sur les sols, et un agriculteur va en parler sur l'agriculture de conservation. Il faut arriver à des systèmes qui permettent justement demain de produire plus, c'est dit, parce qu'il y a l'alimentation, parce qu'il y a aussi la sortie du carbone renouvelable qui pose un certain nombre de questions par rapport à la bioéconomie, c'est-à-dire à la production via la photosynthèse, hein, c'est aussi dans le rapport du GIEC. Pour tout ça, il va falloir le faire, mais de manière la plus raisonnée et raisonnable possible. La personne de WWF qui a parlé dans votre journal avant, disait l'agriculture est victime, cause des solutions. C'est exactement ça. L'agriculture, elle est d'abord victime, on le subit depuis quelques années, tous les ans, que ce soit des sécheresses, des inondations, du gel ou tout ce qui tourne autour du climat. Elle est cause parce qu'elle émet, mais elle a des voies d'amélioration et elle améliore déjà, elle a déjà baissé ses quantités, en tout cas l'unité produite. Il y a encore un travail à faire, mais elle est solution. Et l'agriculture, elle est solution justement pour produire ces produits qui répondent à l'attente de l'environnement, du climat et des gens, sans doute en revenant à une agriculture plus territoriale que l'on a aujourd'hui. Je crois que la question des grands accords commerciaux se pose par rapport à ce rapport du climat, il faut être clair. La mondialisation de l'agriculture telle qu'on la connaît depuis 40 ans pose question aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les frontières, hein, pas du tout. Et puis la dernière solution, évidemment, c'est de produire du carbone renouvelable, mais c'est aussi, ça a été dit juste avant, de pouvoir capter ces gaz à effet de serre. Ça se fait par les forêts, naturellement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut replanter des arbres. En France, je rappelle que la forêt, depuis un siècle, augmente régulièrement, ce qui fait encore que la France est vertueuse. Les prairies, d'où l'importance de garder de l'élevage et d'un élevage qui est fait d'une manière, encore une fois, responsable par rapport au climat, et aussi dans les sols de culture. On sait que dans les sols de culture, c'est les 4 pour 1000 de M. Le Foll à l'époque qui avait engagé ça en tant que ministre, en disant il faut qu'on puisse capter plus de gaz à effet de serre. Pour ça, il faut augmenter la matière organique des sols. Et pour augmenter la matière organique des sols, il faut faire de la biomasse en plus. Il faut garder les sols couverts le plus possible, parce que c'est en retournant les sols que le gaz s'échappe.
Alors, Olivier Daugé,
voilà, on est dans cette optique-là.
On va laisser la place au témoignage des auditeurs qui nous appellent assez nombreux. Étienne, par exemple, qui nous appelle du Mans. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Moi, mon intervention est un petit peu à la marge de votre sujet, mais j'estime quand même qu'elle est très importante. Quand vous avez présenté l'émission tout à l'heure, j'ai bien noté, vous avez parlé de puits à carbone.
Oui.
Et il y a une chose que moi je me constate, si vous voulez, je me partage entre la Sarthe et la Mayenne. Si vous voulez, la construction de la LGV, c'est une source Ouest-France, donc Ouest-France, quotidien régional, a fait perdre 3000 hectares de terres agricoles, et c'est souvent de la bonne terre, sur les départements de la Sarthe et de la Mayenne. Haute et Ouest-France dit régulièrement, tous les 7 ans, vous avez l'équivalent des terres agricoles d'un département français qui disparaissent. Ce que je veux dire par là, c'est que le puits à carbone dont vous parlez tout à l'heure, c'est une expression que je trouve très bien, très judicieuse, si vous voulez, ben c'est en train de se réduire en France, sans que ça n'émeuve qui que ce soit. Les pouvoirs publics s'en émeuvent pas, si vous voulez. Quand j'ai entendu le thème de l'émission ce midi, moi je suis pas agriculteur, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, que je me partage entre la ville et la campagne, si vous voulez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Les pouvoirs publics s'en émeuvent pas.
Alors, quand vous dites que personne ne s'en émeut, je crois que l'artificialisation des terres, on en parle beaucoup. Merci Étienne pour votre...
Un dernier mot, si vous permettez. Et rien n'est fait. Et il y a un autre sujet qui est souvent oublié, si vous voulez, c'est que vous avez les Chinois qui sont en train de faire une mainmise sur les terres agricoles françaises, qui utilisent une faille de la SAFER, sans que les pouvoirs publics, il n'y a pas de disposition qui était prise. J'ai souligné ça à mon député en 2016 ou 2017, et rien n'était fait encore l'année dernière.
Donc, alors, les conséquences... Vous parlez de la LGV, Mireille par mail nous dit c'est un petit peu la même chose, qu'il faut arrêter les grands projets inutiles type Europa City au nord de Paris. Jean-François Soussana, la bétonisation, l'artificialisation des terres, ça fait partie du problème.
Oui, absolument, ça fait partie du problème, et disons que c'est particulièrement important dans des pays qui ont relativement peu de terres agricoles, puisque qui disposent de terres agricoles de qualité. Donc il y a des objectifs que l'on pourrait se donner pour réduire cette artificialisation. Ça fait bien partie de ce qui est envisagé également dans ce rapport.
Alors, Gwenaël, lui, nous écrit, il est agriculteur, il nous dit que la solution, c'est de sortir l'agriculture de l'OMC, un petit peu ce que disait Olivier Daugé à l'instant, bâtir un modèle agricole européen vertueux et se protéger des concurrences extérieures qui jouent le moins-disant social et environnemental les traités de libre-échange. Jean-François Soussana, pas une bonne idée?
Donc notre rapport ne discute pas des modèles économiques, c'est au-delà des missions qui étaient données à ce rapport. Je pense que, en revanche, il y a des indications pour dire qu'il doit y avoir un certain rôle du commerce international, dans la mesure où on va vers des aléas climatiques de plus en plus forts, ce qui implique que certains pays, certaines régions, vont être confrontés à des pertes de production alimentaire certaines années. Et si vous voulez, les échanges des matières premières agricoles permettent de limiter les dégâts dans ce cas-là.
Mais les traités de libre-échange, c'est beaucoup de l'importation de viande. Or, vous nous dites qu'il faut manger moins de viande. Là aussi, il y a un paradoxe, non?
Donc, on voit effectivement ces enjeux du commerce. D'un côté, il y a un effet tampon du commerce quand on a, si vous voulez, des pertes de production certaines années. Et puis, d'un autre côté, si l'on arrive de manière un petit peu artificielle à des prix qui sont trop bas et donc qui découragent des pratiques vertueuses de production, dans ce cas-là, on peut avoir raté l'objectif, qui est celui de restaurer les terres et de redonner sa place à des systèmes agricoles plus vertueux.
Olivier Daugé, vous vouliez intervenir ?
Oui, c'est exactement la problématique. Ce rapport est un rapport de scientifique, M. Soudal l'a bien dit. C'est le lien entre ce rapport de scientifique et le côté politique et les choix politiques et économiques. On va sûrement avoir des grands et beaux discours autour de ce rapport, de chaque pays qui a fait des... j'ai vu qu'il y a un communiqué de presse déjà des ministres français en disant que la France faisait plein de choses. C'est vrai, on parle de neutralité carbone et tout ça. Mais tant qu'on n'aura pas inscrit les accords de Paris à l'OMC, c'est-à-dire dans les accords internationaux, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut que l'on fasse respecter les cahiers des charges liés au climat et liés à l'environnement dans les échanges internationaux, aujourd'hui en France, et c'est tout le problème encore des accords, on importe des produits qu'on n'a pas le droit de produire chez nous, que ce soit lié au climat ou lié à l'environnement. Tant que politiquement on n'aura pas eu le courage de se dire que pour la planète, il faut s'éloigner un peu du court terme, de l'intérêt financier court terme, c'est ce qu'on a entendu sur le CETA, oui mais à court terme c'est intéressant, peut-être que financièrement à court terme c'est intéressant, à moyen et long terme on se trompe complètement et on continue à entretenir ce type de développement qui ne va pas du tout dans le sens de ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui.
Alors je reviens au mail que nous envoie Gwenaël qui parle du bio. Il dit le bio en ce qui concerne la protection des sols est loin d'être la panacée. Ce n'est pas aussi efficace agronomiquement parlant que l'agriculture de conservation qui elle va être tué dans l'œuf par l'arrêt du glyphosate. Alors, justement, à propos d'agriculture de conservation, nous avons en ligne Thierry Desvaux dans l'Yonne. Bonsoir à vous, Thierry Desvaux.
Bonsoir.
Depuis plusieurs années, vous avez sauté le pas en décidant de laisser vivre la terre. C'est ça le principe de l'agriculture de conservation. Pas de labour et pas de sols qui sont laissés à nu.
Et oui, tout à fait. Depuis 10 ans, là, avec un collectif d'agriculteurs, on est maintenant 7 agriculteurs, on a réussi à trouver un équilibre entre la production et la protection des écosystèmes. Donc, on a maintenant un sol vivant, on a réussi à régénérer notre sol, c'est-à-dire à lui redonner une activité biologique, et puis on a un sol qui est résilient. Donc cette agriculture de conservation des sols, qui fait aujourd'hui un petit peu l'honneur des tableaux, et puis on en est très fiers, il est conduit par des réseaux d'agriculteurs, on travaille avec des chercheurs, avec des chambres d'agriculture, des régions, avec des élèves dans l'enseignement. Cette agriculture de conservation, elle repose essentiellement sur l'arrêt du travail du sol, l'arrêt du labour. Vous imaginez ? Oui. Dites à un jardinier d'arrêter de bêcher, dites à un agriculteur d'arrêter de labour. Mmh. C'est très très dur dans notre tête déjà.
Mais pourtant un labour, ça permet l'oxygénation du sol.
Et voilà, et c'est cette oxygénation qui contribue à libérer du CO2. 700 kg de CO2 par hectare par an, libéré par un labour. Donc le labour est une mauvaise pratique. Donc l'agriculture de conservation ne travaille pas le sol et elle cherche à couvrir le sol en permanence. On a une énergie gratuite qui est le soleil, donc il faut que le sol soit toujours couvert. Donc dès qu'on a récolté, on sème en engrais vert et après on sème une culture et ainsi de suite.
Avec une rotation des cultures qui fait bonne place aux légumineuses.
Voilà, une rotation des cultures, ça c'est sur le point apporter de la biodiversité, c'est le troisième pilier de cette agriculture de conservation. Donc les légumineuses, parce qu'elles captent l'azote qui est dans l'air, dans le sol, grâce à des bactéries. On replante des haies, on s'intéresse à des arbres. On pense réintroduire de l'élevage. L'élevage fait partie des écosystèmes, à condition qu'ils soient bien gérés. On fait des cultures associées. En fait, on essaie de copier un petit peu de façon agroécologique la nature, tout simplement.
Depuis 10 ans, donc vous avez constaté que votre terre revit. Vous avez revu des vers de terre.
C'est incroyable, incroyable. D'ailleurs, je suis extrêmement fier de montrer ça très régulièrement à beaucoup d'élèves. Je reconnais pas mes terres, les terres foisonnent de vers de terre, donc c'est une grande fierté. Et au-delà des vers de terre, c'est toute l'activité biologique du sol, d'un sol régénéré. Et donc ce sol vivant, il permet de nourrir les plantes. On cherche pas à nourrir les plantes par des engrais chimiques, on en utilise encore de moins en moins. De moins en moins de carburant, forcément, on travaille plus le sol, de moins en moins de produits de défense des cultures, parce que quand on a un sol vivant, nos plantes sont plus résistantes. En fait, on essaie de rentrer dans un cycle où on cherche à recycler, on produit, on accepte la consommation à condition qu'il y ait un retour par le recyclage. C'est un petit peu un nouveau paradigme de cette agriculture de conservation.
Le revers de la médaille, c'est le désherbant que vous continuez à utiliser de type glyphosate.
Effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu notre tendon d'Achille, le fameux glyphosate. On travaille avec beaucoup de monde pour, s'il est interdit, comment arrêter. Mais en aucun cas, on veut détruire ce qu'on a construit dans nos sols. C'est tellement merveilleux.
Mais comment vous ferez pour sortir du glyphosate?
Mécaniquement, je pense qu'il peut y avoir des solutions. Les chercheurs actuellement trouvent peut-être des produits de substitution avec moins d'impact négatif. C'est vrai que c'est une préoccupation et c'est sans doute le frein pour certains agriculteurs qui aujourd'hui viennent nous voir, nous questionnent, respectent nos résultats parce qu'on a de bons résultats tant au niveau production qu'au niveau économie de charge, étant donné qu'on a peu de matériel, peu de carburant et puis peu de produits de défense des cultures.
C'est ça, la production est moins importante, mais vos charges sont moins importantes aussi.
La production n'est pas moins importante. La production est équivalente à des systèmes conventionnels. Et ceci grâce à un sol vivant qu'on a réussi à acquérir progressivement. Il a fallu minimum 2-3 ans et maintenant on a l'impression que notre sol continue encore de progresser. On augmente notre taux de matière organique, donc on stocke du carbone, on limite les gaz à effet de serre. C'est une agriculture qui mérite l'honneur aujourd'hui parce qu'elle est vertueuse par rapport à ce changement climatique. L'agriculture est vraiment une solution.
Donc la conservation des sols d'un côté, le bio de l'autre, et le tour est joué?
C'est ensemble. Il n'y a pas de sectorisation entre le bio et puis l'agriculture de conservation. On se réunit, on a des amis, on cherche à aller dans un sens, une agriculture la plus vertueuse. Si on n'avait ni chimie et ni travail du sol avec une production, waouh, on signe, c'est le Graal.
Merci beaucoup Thierry Desvaux, donc agriculteur dans Lyon, en agriculture de conservation des sols depuis 10 ans. Merci beaucoup Jean-François Soussana. Un commentaire, c'est l'exemple à suivre?
Oui, bien sûr, c'est un exemple à suivre. Et si vous voulez, la question pour l'agriculture européenne, c'est un peu le passage à l'échelle. C'est-à-dire que ce type de modèle, comment est-ce qu'on va le généraliser dans le cadre probablement de la réforme de la politique agricole commune? Et cela pose des questions sur la rémunération des agriculteurs. Est-ce qu'on peut les encourager financièrement à prendre les risques qu'ils prennent lorsqu'ils font des transitions? Est-ce qu'on peut compenser éventuellement les pertes de production qu'ils auraient lors de ces transitions vers des modèles plus vertueux?
Oui, parce qu'il y a 2-3 ans de transition qui sont très difficiles. Hein.
Oui, c'est ça.
Olivier Daugé, vous avez entendu ce témoignage. Une autre agriculture est possible.
Oui, mais il y a beaucoup de systèmes agricoles. Tout à fait. Il y a une vraie passion et l'agriculture de conservation est une solution. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a faut surtout pas opposer les systèmes, qu'ils soient bio, agriculteurs. L'agriculteur de conservation a un talon d'Achille, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est le glyphosate. Si on décide de retirer le glyphosate, ce qui à court terme serait une erreur, parce que on va peut-être trouver des solutions, on va sans doute trouver des solutions, mais il faut pas brûler les étapes. L'agriculture biologique a une certaine faiblesse de ce côté-là, parce que dans certains secteurs, les secteurs plus au nord peut-être, on a besoin de travailler le sol et notamment de labourer pour désherber, hein, tout simplement, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser de produits. Donc ça, voilà, il y a maintenant, on a besoin surtout dans l'avenir, on a besoin d'aide, ça vient de le dire, mais on a besoin aussi de beaucoup de recherche et développement pour arriver à trouver il n'y a pas de solution parfaite. Il y aura toujours des systèmes agricoles différents parce que suivant les cultures, suivant les assolements que vous avez, suivant les régions, les solutions techniques peuvent être différentes, elles sont même différentes. Par contre, il y a des principes à travailler au niveau de la recherche, il y a des choses à travailler pour trouver des solutions, pour permettre aux agriculteurs de pouvoir développer ce type d'agriculture avec un objectif en fait qu'on ressent bien, c'est comment protéger le sol et comment faire que le sol puisse donner tout ce qu'il peut donner quelque part parce qu'il est vivant, parce qu'il est protégé. C'est véritablement l'enjeu de demain pour l'agriculture, que ce soit pour les éleveurs, les cultures et tout type de culture, du bio conventionnel au maraîchage et compagnie. C'est véritablement là et ça ne pourra se faire que grâce à la recherche. Et que grâce aux technologies qui arrivent et à venir. C'est pas en revenant en arrière, c'est plutôt en allant en avant. Et surtout ne pas opposer les systèmes.
Ah bah tout le monde est d'accord là-dessus, hein, pour aller en avant. Un nouvel auditeur, un nouveau témoignage, il nous attend depuis un petit moment au téléphone. Daniel, bonsoir à vous.
Bonsoir, bonsoir.
Vous êtes en Isère.
Oui, en Isère, dans le Vercors précisément.
Allez-y.
Oui, donc moi je suis donc d'une mouvance baignée dans la macrobiotique depuis tout jeune, hein, c'est ce que pratiquait ma mère pour l'alimentation, et c'est vrai que j'ai appris à manger très peu de viande, des galettes de blé, à la tomate, des choses comme ça, beaucoup de crudités, il y avait un potager chez nous, des choses comme ça, donc ça commençait déjà à être avec la vie claire, des bonnes pratiques et une bonne alimentation saine. Par la suite, pour l'exemple, pour mes enfants, je suis revenu à une alimentation plus carnée. Mon ex-femme était plutôt dans la mouvance d'alimentation traditionnelle. Donc, je me suis mis à manger de la viande. Et puis, j'ai repris mon indépendance par la suite. Et là, à nouveau, je suis revenu sans peine à un régime sans viande qui me va bien financièrement, physiquement. Je suis dans une santé du tonnerre.
Enfin, vous n'êtes pas militant, ni d'un côté ni de l'autre. Vous alternez.
Non, je ne suis pas vegan, ni extrémiste, ni quoi que ce soit. Bon. Mais je constate le bon goût des produits quand je vais chez mon maraîcher en culture raisonnée, qui est de l'Y-Grenobloise, qui est de la région, quoi. Je vais chez le fromager du Trièvre, qui a une région pareille à côté. C'est tout du bio, il fait des petits fromages blancs, des fromages, tout ça. On en prend un petit peu, il amène des herbes.
Très attentif à l'alimentation, à la qualité de votre alimentation.
Essentiellement, ouais. Bien sûr. Des lentilles, des légumineuses, bon. Comme ça.
Parfait,
un blé complet ou un riz complet, plutôt un riz complet pour parachever tout ça dans une alimentation avec beaucoup de risotto.
Très bien, merci beaucoup Daniel. Jean-François Soussonna, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein.
Oui, alors il faut rappeler un petit peu les chiffres au niveau mondial. On a aujourd'hui 2 milliards de personnes qui sont en surpoids, avec une partie d'entre eux qui sont réellement obèses.
Et ça s'accompagne dans les pays riches.
Particulièrement dans les pays riches, mais pas uniquement. En fait, ça se retrouve maintenant dans tous les pays. Et si vous voulez, cela signifie une occurrence renforcée de maladies chroniques, donc des coûts pour la santé publique qui sont importants. Alors que, effectivement, dans les pays les plus pauvres, on a encore 820 millions de personnes qui sont en sous-alimentation chronique. Donc le système alimentaire mondial est tout de même assez déséquilibré.
Ouais, mais là aussi, quand vous dites qu'il faut manger moins de viande, diminuer l'élevage...
Alors cela dépend du contexte. Quand vous êtes dans des pays africains, dans des pays très pauvres, il y a une consommation moyenne de viande de moins de 10 kilos par habitant et par an. Ça n'est pas forcément suffisant, non, en particulier pour les jeunes, pour les enfants. Donc si vous voulez, c'est plutôt un rééquilibrage vers des régimes alimentaires sains et durables qui serait souhaitable, et la place de l'élevage est tout à fait réelle, d'autant que nous avons des surfaces qu'on ne pourrait pas utiliser autrement que par l'élevage.
Alors est-ce qu'il faut devenir tous végétariens ? Comme ne l'est pas Daniel apparemment, mais il l'a tenté, il l'a été à un moment. Si ce n'est pas par choix, ce sera peut-être un jour par obligation.
Non, je pense pas que l'on puisse dire ça. On a en fait dans ce rapport, je rappelle que ce n'est pas un rapport qui fait des recommandations.
Non, vous ne donnez pas un régime idéal.
Non, absolument pas. Nous faisons des constats et nous étudions une palette d'options. Et si vous voulez, ce que l'on peut dire, c'est qu'il serait souhaitable de s'approcher de régimes alimentaires sains et durables. Donc, en gros, des recommandations nutritionnelles que l'on trouve au niveau international.
Alors, vous mettez quand même en avant les céréales secondaires, hein, autres que le blé, le riz, les fruits, notamment
oui, voilà.
Les fruits à coque, les légumes.
Effectivement, si on veut rééquilibrer les régimes alimentaires, il faut plus de place pour les fruits, les légumes, les fruits à coque y compris. Et donc, c'est ainsi qu'on peut avoir une nutrition plus équilibrée.
Mais comment fait-on pour réorienter toute une société vers un nouveau régime alimentaire? Est-ce qu'il faut réorienter les subventions, par exemple? Ce serait une mesure simple. Pourquoi ne pas subventionner plus les fruits et légumes, subventionner moins les céréaliers, par exemple?
Oui, alors ça pose la question des évolutions des politiques agricoles et finalement du lien avec les politiques alimentaires et les politiques climat. Et donc le rapport que nous avons produit indique clairement qu'il faudrait des politiques qui soient mieux intégrées entre les dimensions environnement, climat, agriculture et alimentation.
Olivier Daugé, comment réorienter l'agriculture, en tout cas les choix de nos productions?
Ben, je dirais que dans toute l'évolution qu'on voit, celui qui tient la solution, c'est le consommateur. Si le consommateur, dans son acte d'achat, va vers justement ce type de produit ou des produits plus diversifiés ou avec plus de protéines, évidemment, le marché fera en sorte, quoi, se développera et fera en sorte que les producteurs pourront produire sur ces marchés-là. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a encore une différence entre ce que l'on peut dire et les actes d'achat réels, et surtout, j'y reviens, mais il y a une grosse différence entre ce qui est proposé aujourd'hui par la distribution, que ce soit au niveau des cantines publiques ou ce genre de choses avec les appels d'offres, que les grands distributeurs qui aujourd'hui sont encore une fois plus sur le prix que sur l'origine ou le cahier des charges du produit ou le produit. Il y a pas le. Vous êtes sur un marché, et ben les producteurs répondent à la demande quelque part. Si la demande change, les producteurs changeront. Aujourd'hui, les agriculteurs français ont déjà fait beaucoup d'efforts, et je pense en particulier à l'élevage sur ces questions-là. Malheureusement, ils sont confrontés à des prix défiant toute concurrence, en tout cas en dessous de leur production. Donc on fragilise l'élevage, on fragilise les prairies. J'ai entendu tout à l'heure, il y a moins en moins de prairies. C'est une réalité, mais quand la prairie n'a plus de vocation économique, vous pouvez pas demander à quelqu'un de continuer à avoir une activité sans revenu derrière. Pareil, il y a tout un ensemble de choses, à respecter. Regardons, achetons français, quand on voit beaucoup aujourd'hui d'étiquettes transformées en France, c'est pas forcément une très bonne idée.
Alors,
quand on voit aujourd'hui beaucoup de production bio sous plastique dans les grandes surfaces et qui viennent quelquefois de plus en plus de l'étranger parce que certains grands distributeurs veulent vendre du bio au prix des produits conventionnels, c'est pas une bonne idée.
Après, alors justement,
aux agriculteurs, il y a un grand plan, je termine juste là-dessus, mais il y a un grand plan protéines avec le gouvernement qui est en train de mettre en place pour justement produire plus de protéines en France dans l'intérêt des marchés, mais aussi dans l'intérêt des sols. Maintenant, il faut que derrière, le marché consomme ce qui va être produit. C'est tout un ensemble de choses à mettre en place.
Alors justement, vous parlez des consommateurs. Pierre nous dit, on en veut, il est agriculteur, hein, on en veut toujours aux agriculteurs, on leur demande de faire des efforts pour le climat, mais vous, les consommateurs, êtes-vous prêts à payer plus? On doit produire autrement, mais comment? Qui paye? Comment faire avec le CETA et autres accords internationaux? Et puis, un autre auditeur qui nous écrit... qu'il faut aider les consommateurs à avoir les bons réflexes dans leurs achats. Le consommateur, par exemple, devrait refuser l'achat de sucre en poudre conditionné en plastique, alors qu'on trouve le même produit moins cher en carton traditionnel. En fait, en voulant acheter du sucre, on achète du plastique. Voilà le rôle des consommateurs, évidemment. Améliorer les choses, Jean-François Soussana, c'est au niveau mondial, au niveau national. Et c'est chacun de nous tous les jours.
Oui, c'est ça. Et si vous voulez, on peut dire que les campagnes d'information ont aussi une efficacité. L'INRA a pu analyser les campagnes d'information du type « manger 5 fruits et légumes par jour » et on a pu constater que, en termes économiques, les bénéfices qui sont apportés par ces campagnes via les gains de santé publique sont nettement supérieurs au coût de la campagne d'information.
Un nouvel auditeur dans ce téléphone sonne, c'est votre tour Alain d'intervenir. Bonsoir Alain.
Bonsoir, bravo pour vos émissions.
Merci.
J'ai une question, mais elle s'adresse peut-être plus à vous, les journalistes organisateurs de débats, qu'à vos intervenants. Voilà, ma question est simple. Notre humanité a atteint son premier milliard à l'époque de Napoléon, au début du 19e. Dans les années 60, j'étais potache, et je me souviens avoir entendu le commandant Cousteau dire à la télévision que l'homme proliférait comme des rats. Ça m'a fait bondir à l'époque, j'étais jeune. En ce moment, l'humanité progresse de 80 millions par an.
Et 10 milliards en 2050, oui.
C'est ce que tout le monde semble admettre. Ma question est la suivante. Comment se fait-il que cette évolution de notre démographie qui n'est pas galopante, qui est à mon sens suicidaire, comment se fait-il que c'est un sujet tabou? Très peu on en parle très peu.
Oh, c'est pas un sujet tabou, Alain. Jean-François Soussana va vous répondre.
Oui, merci pour la question. Donc, il est clair que la taille de la population mondiale, c'est un paramètre clé pour l'utilisation des ressources naturelles et pour le climat à l'avenir.
Parce que c'est vrai qu'au lieu de diminuer la production, c'est ce que veut dire Alain.
Oui, bien sûr.
On peut diminuer la natalité. Bon.
Ce qu'il faut souligner, c'est que il y a des scénarisations qui sont très contrastées, y compris pour la population mondiale. Alors pourquoi? Parce que l'augmentation de la population se fait surtout dans des pays pauvres, dans des pays en développement, c'est en Afrique, en Asie du Sud en particulier. Et cette augmentation, elle est liée à la pauvreté. Les familles qui ont beaucoup d'enfants sont le plus souvent des familles pauvres où il n'y a pas d'éducation des jeunes et en particulier des femmes. Et il y a beaucoup de résultats qui sont probants dans différents pays qui montrent que une meilleure éducation, particulièrement des jeunes filles, permet d'avoir une transition démographique avec moins d'enfants et finalement des bénéfices à terme dans la réduction de la pauvreté. Donc ces enjeux qui sont profondément des enjeux de développement, eh bien ils sont aussi profondément liés aux enjeux du climat et de l'environnement.
Mais de façon générale, Jean-François Soussana, on demande beaucoup à la Terre, on lui demande de nous nourrir, d'assurer la biodiversité, l'eau douce, de capter le carbone. Ça implique quoi concrètement? Alors ça implique de repenser et de revoir la façon dont on occupe chaque hectare?
Donc notre rapport dit bien que on peut demander effectivement plus à condition d'avoir des pratiques plus vertueuses, des modes d'utilisation des ressources naturelles qui soient moins intensifs. Et je voudrais rappeler que dans le débat sur le climat, nous avons aussi la question des bioénergies. En fait, pour assurer une stabilisation du climat à 1,5 degré, il est probable que nous aurons besoin d'un recours accru à une substitution des énergies fossiles par des bioénergies, des énergies issues pour partie de la biomasse. Alors ça peut consommer beaucoup de terres. Et notre rapport montre que si on devait déployer ces bioénergies sur des millions, des dizaines de millions de kilomètres carrés, on aurait
culture.
Des effets négatifs sur la sécurité alimentaire, sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Donc finalement, ce secteur des terres ne peut pas tout. Il peut contribuer à la stabilisation du climat, bien sûr à la sécurité alimentaire, à la biodiversité, mais il y a des limites.
Le dernier auditeur pour ce soir... Non, Jacques n'est pas là. On me dit que Jacques n'est pas là. On avait Jacques qui nous attendait à Genève. Il n'est pas là. Bien, tant pis. Olivier Daugé, je voudrais vous soumettre ce commentaire de Mathieu qui nous dit « Si l'élevage est nocif pour l'environnement, comment va-t-on gérer le monde animal qui ne pourra plus constituer une ressource alimentaire pour l'être humain ?» Il trouve que les rapports du GIEC, c'est aussi pour vous Jean-François Soussana, sont perturbants car sous couvert de protéger l'environnement, vous préconisez des formes de régulation des systèmes écologiques. Or, pour nourrir l'espèce humaine avec des végétaux, il faudra industrialiser les processus pour produire suffisamment de nourriture et donc de nouveau perturber les écosystèmes. Olivier Daugé, c'est un cercle vicieux tout ça.
On a besoin d'élevage. Dans le rapport du GIEC, ils ne remettent pas en cause l'élevage en tant que tel. C'est pas un rapport vegan du tout.
Non, pas supprimer la viande, manger moins de viande.
Les régimes équilibrés, ils parlent d'aliments d'origine animale produits dans des systèmes résilients, durables et à faible émission de gaz à effet de serre. On est exactement dans le type d'élevage qu'il faut promouvoir. On est exactement dans le type d'élevage que les instituts de l'élevage en France promeuvent, parce qu'on a besoin de l'élevage pour conserver les prairies, on a besoin de l'élevage, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a besoin d'engrais pour les plantes, on a besoin de nourrir les plantes. L'élevage est, on dit toujours qu'une ferme de polyculture élevage est la ferme la plus logique qui soit en termes d'économie circulaire. L'élevage consomme, l'élevage reproduit l'énergie qui est l'engrais qui permet de renourrir les plantes. Donc on est véritablement dans une place de l'élevage qui est nécessaire. La question qui se pose aujourd'hui, c'est l'élevage qui s'est développé depuis une trentaine d'années dans certaines régions du monde, hein, plus qu'en France, même plus qu'en Europe et surtout plus qu'en France, qui pose question, puisque c'est vrai qu'on est sur des élevages très intensifs, on n'est plus du tout sur l'économie circulaire, on est sur des élevages qui permettent de produire de la viande pas chère qui envahit le monde entier, donc qui déstabilise les élevages de nos régions et qui du coup déstabilise l'engrais organique de nos régions. Donc l'élevage n'est pas, et c'est pour ça que ce rapport est... Enfin, moi, je le trouve particulièrement intéressant et irresponsable. C'est-à-dire qu'il dit simplement, le sol, on en a besoin. Ce que l'on fait dans certains endroits ou dans certains secteurs depuis un certain temps remet en cause la possibilité du sol de répondre à nos besoins. On a encore parlé de bioénergie ou de bioéconomie à l'instant. Ayons l'intelligence, justement, d'utiliser le sol pour produire plus, parce que c'est une nécessité, mais avec des systèmes qui vont pouvoir demain être beaucoup plus efficients. Il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui pour moi est quand même essentielle, c'est le gaspillage. Parce que le gaspillage, c'est pas simplement dans la poubelle chez les gens, c'est le gaspillage aussi dans le stockage.
Oui, si, on l'a dit, 30% de la production gaspillée.
Si déjà on arrive à résoudre 50% de ces 30%, on aura déjà augmenté le potentiel de production de 15%.
Merci à vous, Olivier Daugé.
C'est important.
Merci à vous, Olivier Daugé, agriculteur, merci. Administrateur de la FNSEA en charge des questions climatiques et énergétiques. Merci, Jean-François Soussana. Une réponse à Mathieu, donc, qui nous disait par mail que votre rapport était quand même assez perturbant, hein, nourrir toute l'espèce humaine avec des végétaux.
Alors je dis bien, hein, ce rapport ne préconise rien, il fait un panorama des options et il ne préconise en aucun cas que l'on soit végétarien. Il indique simplement que les régimes alimentaires qui sont à base avec une forte proportion de produits animaux émettent plus de gaz à effet de serre que ceux qui sont avec une plus forte proportion de produits végétaux. Et donc, ils recommandent de rééquilibrer les régimes alimentaires vers des régimes sains et durables.
Est-ce que la solution, puisqu'on parle de protéines animales, c'est les élevages d'insectes ?
Alors, si vous voulez,
il y a quelques questions aussi là-dessus.
D'accord, quelques questions. Il y a des choses que l'on peut faire. En particulier, on peut utiliser des insectes pour l'alimentation animale, les poissons, l'aquaculture. Si on allait directement
dans beaucoup de pays, c'est pas pour l'alimentation animale.
Alors voilà, on peut aussi utiliser pour dans certaines cultures, on l'utilise pour l'homme, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'interrogations, y compris en termes de sécurité sanitaire de ce type de produits, d'allergies, et ainsi de suite.
On n'en est pas là. Merci beaucoup Jean-François Soussana, directeur de recherche, vice-président de l'INRA, en charge de la politique internationale. Et merci à Thierry Desvaux, donc exploitant agricole dans l'Yonne, qui nous a raconté son expérience sur de l'agriculture, de conservation des sols. Merci à Ronan Mahé et Charles Léca, qui étaient à la technique. Anna Buy pour la réalisation, Pierre de Certaines, Emma Ferret et Mathilde Sour pour la préparation.